Monsieur Marc Jeannereau, qui est né en 1935. Il est docteur en médecine, professeur à l'Université Claude Bernard à Lyon, directeur de l'Institut des sciences cognitives du CNRS. Spécialiste de physiologie, il travaille sur l'étude des fonctions de l'organisme, y compris les fonctions cognitives. Il est membre correspondant de l'Académie des sciences. Il a écrit deux ouvrages qui peuvent être des compléments à la conférence d'aujourd'hui. Le cerveau-machine, physiologie de la volonté, aux éditions Fayard en 1983, et de la physiologie mentale, histoire des relations entre psychologie et biologie, chez Odile Jacob en 1997. Monsieur Jeannereau, c'est à vous.
Bonsoir, vous m'entendez? Vous me voyez? Alors, je voudrais vous faire partager un certain nombre de connaissances sur le cerveau et sur les fonctions du cerveau, sur la façon dont le cerveau est organisé et dont il fonctionne. Alors, je peux dire peut-être en exergue que le cerveau est considéré comme un objet extrêmement complexe, peut-être même, dit-on, l'objet le plus complexe qui existe dans l'univers. Vous voyez que ce n'est pas n'importe quoi. Et forcément, cette complexité nous impressionne. Cette complexité nous pose des questions parce que comment la décrire? Comment en rendre compte sans la réduire à des éléments ou à des composants? Donc ça va être un des challenges de ce soir, si vous voulez, c'est d'aller peut-être du simple vers le complexe, mais en n'oubliant évidemment pas le complexe. Alors, d'autant plus, et ça il ne faut jamais l'oublier, que l'instrument que je vais utiliser pour décrire le cerveau, c'est mon cerveau, c'est-à-dire c'est le cerveau qui pense au cerveau, et ça peut-être c'est encore un challenge encore plus grand. Alors, je vais commencer par une série de choses, de rappels, disons, j'allais presque dire de banalités, mais dont il faut absolument être conscient, être sûr avant de commencer. Donc le cerveau est un ensemble de neurones. On va voir dans un instant à quoi ressemble un neurone du cerveau. Mais c'est un ensemble évidemment organisé. Il est organisé selon un plan défini qui appartient au génome de notre espèce, au cours de la vie embryonnaire et au cours des premiers mois, ou peut-être premières années de la vie extra-utérine, le cerveau se constitue selon un plan qui est relativement constant d'un individu à l'autre. Je vais revenir bien sûr sur cette définition parce qu'elle est incomplète. Alors, le cerveau dont je vais parler aujourd'hui, c'est le cerveau qui est tout fait, le cerveau qui s'est développé normalement, c'est-à-dire dont les connexions se sont mises en place et où on peut repérer donc ces populations de neurones, ces ensembles interconnectés et commencer à aborder leur fonctionnement. J'ai dit que le cerveau se constituait pendant la vie fœtale et le début de la vie extra-utérine. Évidemment, c'est incomplet comme définition. Ce sont des connexions qui se mettent en place, qui vont rester, qui vont constituer l'armature, en quelque sorte, du système. Mais ce processus de connexion qu'on appelle la synaptogénèse, c'est-à-dire la fabrique de synapses, les synapses, ce sont les connexions entre les neurones, ce processus de synaptogénèse ne s'arrête pas. Il continue pendant toute la vie, même s'il a tendance à décroître au cours des âges de la vie, mais c'est un processus qui ne s'arrête pas. Simplement, la synaptogénèse qui suit en quelque sorte la mise en place des connexions principales, c'est une synaptogénèse locale qui fait que les connexions, en quelque sorte, dans un endroit déterminé, vont se modifier, vont se moduler au cours de la vie, augmenter, diminuer, en fonction de l'apprentissage, en fonction des circonstances, on en verra des exemples. Ce qui fait que finalement, il y a une espèce de plasticité du cerveau qui fait que son organisation principale est fixe, mais autour de cette organisation fixe, il y a une grande possibilité de modulation et de synaptogénèse qui se prolonge. Donc il faudra tenir compte de ces deux aspects, à la fois un organe organisé, défini selon un plan, et à l'intérieur de ce plan, des possibilités de modification, je dirais pratiquement infinies. Alors, il va s'agir donc d'un exposé illustré, parce que le cerveau, depuis 150 ans maintenant, qu'il est étudié de manière intensive, avec des méthodes qui se renouvellent en permanence, c'est quelque chose qui se regarde, c'est quelque chose qui se décrit à partir de documents visuels. Donc ce sont ces documents que je vais vous montrer. Alors je vais commencer par cette première diapositive qui vous montre donc un cerveau vu de côté, un hémisphère gauche d'un sujet adulte. Alors, ne faites pas attention aux légendes qui sont autour, ce sont des détails sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure. Ce que je veux vous montrer maintenant, c'est que ce cerveau, avec cette allure, si vous voulez, extrêmement complexe et qui semble défier un petit peu la description, en fait, est quelque chose qui est parfaitement bien décrit. Et on décrit le cerveau, disons, autour d'un certain nombre de traits saillants, comme par exemple des sillons. Alors, un des sillons essentiels, c'est le sillon central, ou c'est sûr de Rolando, qui est, on va le voir, un trait dominant sur tous les cerveaux de mammifères. Donc il faut bien retenir sa localisation. Un autre sillon très important, qui est le sillon latéral, ou c'est sûr de Sylvius. Alors, l'intérêt de ces sillons, on verra tout à l'heure, ça sert beaucoup à la description, mais en première analyse, ça sert surtout à décrire des lobes. En avant du sillon central, vous avez le lobe frontal. En dessous du sillon latéral, vous avez le lobe temporal. Derrière le sillon central, vous avez le lobe pariétal. Et tout à fait ici, vous avez le lobe occipital. Alors, ça, c'est le cervelet, on en parlera un petit peu, mais disons qu'on va évidemment être obligé de restreindre progressivement les définitions et la description. On ne peut pas évidemment tout aborder en une seule fois. Alors, remarquez bien que ce que vous avez vu tout à l'heure, c'était la surface, et la surface exposée en quelque sorte du cerveau, lorsqu'on l'examine, ne représente environ qu'un tiers de sa surface totale. Et vous le voyez très bien sur une coupe. C'est une coupe, disons, qui passe à peu près par le sommet du sillon central. Et vous constatez que cette coupe, vous voyez un très grand nombre de replis à la surface du cerveau. Donc, ce sont des replis du cortex cérébral. Le cortex cérébral, c'est la structure qui enveloppe, en quelque sorte, qui recouvre le cerveau. C'est ce qu'on voit, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Eh bien, vous voyez que ce cortex qui avait l'air d'être relativement lisse et homogène, en fait, ce cortex est invaginé et plissé. Et pour comprendre les fonctions du cerveau, il faudra tenir compte de cette immense surface de cortex qui tient dans un faible volume. En fait, la plicature, si vous voulez, l'augmentation, les plis, c'est une façon d'augmenter la surface du cortex sans augmenter le volume du cerveau. En fait, c'est un moyen, disons, que l'évolution a trouvé pour augmenter la surface du cortex. Alors maintenant, on va rentrer à l'intérieur. Et donc, partir, comme je l'ai fait au tout début, de l'élément central, le neurone. Alors voilà à quoi ressemble un neurone du cortex. Je vais surtout parler du cortex cérébral. D'abord, c'est la partie la plus intéressante, c'est celle que je connais le mieux, et puis je pense que c'est là où il y a le plus de choses à dire, le plus de choses intéressantes à dire. On parlera aussi du reste, hein, mais on va parler surtout du cortex. Alors, voici des neurones du cortex. Il y a plusieurs sortes de neurones, comme vous voyez ici, mais en voilà un. Alors, ils sont caractérisés par un corps cellulaire. C'est là que se trouve le noyau, et entouré de la membrane avec tous les canaux. Ça, j'imagine que ces choses-là vous seront décrites, ou vous ont déjà été décrites, probablement, peut-être demain encore. La particularité de cette cellule est qu'elle est, elle possède de nombreux prolongements qui vont dans toutes les directions, et ces prolongements sont organisés. Il y a un ensemble de prolongements qui constitue un arbre très complexe qu'on appelle le dendrite, et un prolongement unique, beaucoup plus fin, qu'on appelle l'axone. Alors, les neurones sont polarisés, comme sans doute vous le savez déjà, c'est-à-dire que l'information passe de l'axone vers le dendrite, et puis ensuite à travers la cellule, du dendrite vers l'axone. Et c'est ainsi que se fait, en quelque sorte, la circulation du courant, la circulation de l'influx nerveux d'un neurone à l'autre. Alors, la particularité de ces cellules, c'est d'avoir tous ces multiples prolongements, et ces prolongements leur servent, bien entendu, à réaliser ces fameuses connexions. Chaque neurone est connecté à des milliers d'autres par son axone et les ramifications terminales de son axone, et évidemment par tous les axones qui viennent contacter ces dendrites. Alors cette connectivité, si vous voulez, qui fait que les éléments du cerveau sont connectés les uns aux autres, est quelque chose qui a beaucoup fait travailler en quelque sorte les premiers chercheurs. Et là, on ne peut pas s'empêcher de citer le nom de Cajal, si vous voulez, qui est l'Espagnol qui a produit d'ailleurs le document que vous venez de voir. La diapositive que je vous ai montrée juste avant, celle-là, est un document qui date de 1910. Vous voyez donc que Cajal avait inventé une technique qui permettait de visualiser les neurones. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que sur ce dendrite ici, on voit de multiples petites épines. Peut-être qu'on les verrait mieux si, avec un plus fort grossissement. Eh bien, ces épines, qu'on appelle les épines dendritiques, sont autant de synapses. C'est pour vous dire la densité, en quelque sorte, de synapses qui recouvrent l'ensemble de l'arbre dendritique, du corps cellulaire, du neurone. Tout ça, ce sont en quelque sorte des terminales d'axones qui viennent d'autres neurones. Alors cette connectivité est telle que on peut, disons, en donner une espèce de définition en disant que le neurone A est connecté à un très grand nombre de neurones B, chaque neurone B est connecté à un très grand nombre de neurones C. Eh bien, en disant cela, on pense que le neurone A, à travers le neurone B et le neurone C, est connecté à l'ensemble du cerveau. Donc, c'est vous dire la densité et l'importance de ces connexions. Donc, Cajal, et voilà, avec une méthode un peu plus moderne, à quoi ressemblent les neurones du cortex. Vous voyez que ce sont ces petites cellules pyramidales, avec le dendrite ici qu'on ne peut pas suivre dans toutes ces ramifications, et l'axone qu'on perçoit vaguement chez certains de ces neurones. Alors, si je vous montre cette diapositive, c'est pour aborder un premier principe d'organisation, c'est que les neurones, surtout dans le cortex cérébral, sont groupés selon un certain nombre de principes, mais un principe, je crois, qui est assez imagé et qui est, en plus, qui est vrai, c'est qu'ils se ressemblent, s'assemblent. C'est-à-dire que les neurones qui ont en gros la même forme, comme vous le voyez ici, qui ont en gros les mêmes connexions, c'est-à-dire qu'ils reçoivent surtout leurs informations du même organe ou d'une autre partie du cerveau, et qui se projettent, qui envoient leurs connexions à peu près au même endroit, ces neurones-là forment une population, et cette population a tendance à se grouper. Alors, un premier groupement qui vous apparaît ici, c'est la couche corticale. Alors, on va le voir dans un instant, le cortex est une structure laminaire, c'est une structure qui est formée de couches successives, et ici, nous avons une population de neurones qui a été marquée par un moyen, en quelque sorte, fonctionnel, qui est fondé sur sa connectivité, je ne veux pas insister là-dessus, mais et vous voyez que ces neurones semblent groupés dans une couche. Alors, Cajal, justement, a été un des premiers à décrire, en quelque sorte, grâce au document que vous avez vu tout à l'heure, qu'il avait lui-même fabriqué, à décrire les couches du cerveau. Et ici, vous avez donc le schéma de Cajal lui-même. Ici, c'est un autre auteur, Meinert, à peu près à la même époque. Et ces auteurs de la fin du 19e siècle s'étaient évertués, grâce aux techniques justement mises au point par Cajal, à décrire le cortex couche par couche. Alors, vous voyez qu'ici, vous avez 5 couches. Ici, vous en avez 8, donc ça dépendait des auteurs. Maintenant, on s'est entendu sur un modèle qui est constant, c'est 6 couches. Mais là, je vous montre les débuts, en quelque sorte. Et vous voyez bien que ces couches sont différentes. Ici, on a surtout un espèce de réseau fibreux. Ici, on a des petites cellules granulaires. Ici, on a des cellules pyramidales, et ainsi de suite. Et chaque couche possède un certain type de cellules. Alors, grâce à ce système, on a pu décrire on a pu montrer en quelque sorte que si l'on changeait d'endroit dans le cerveau, si on décrivait dans le lobe occipital ou dans le lobe temporal ou dans le lobe frontal, on trouvait toujours la même lamination à 6 couches, mais avec des variations dans l'épaisseur relative des couches. Je vais vous en montrer un exemple ici. Ici, vous avez une coupe de cortex avec les couches, 1, 2, 3, etc. Elles ne sont pas faciles à voir comme ça. Et je vous demande de regarder, ici, vous suivez très bien un certain nombre de couches, et vous voyez qu'ici, abruptement, vous avez un changement d'aspect. C'est-à-dire que l'épaisseur relative des couches varie tout d'un coup. On passe ici avec une couche 4 beaucoup plus grosse, et ainsi de suite, et vous voyez très bien qu'ici, il y a une frontière, et ces frontières, qui ne sont pas toujours aussi visibles que ça, ici, il s'agit d'une frontière entre l'aire 17, c'est-à-dire l'aire calcarine, et l'aire 18, ce sont deux aires qui sont situées dans le lobe occipital, les aires visuelles, ce n'est pas toujours aussi visible, mais vous voyez qu'à partir de cet aspect laminaire, en quelque sorte, on peut décrire des zones corticales, ce qu'on a appelé les aires cérébrales, et ces aires cérébrales ont permis de réaliser, ça a été une étape fondamentale de la description du cerveau en 1900, il y a exactement 100 ans, disons, ça a permis de réaliser une cartographie du cortex cérébral avec cette fameuse carte que certainement vous avez vue déjà, qui a été réalisée. Alors, il y a plusieurs de ces cartes. Celle-ci a été réalisée par Brodmann, un Allemand, qui a justement, grâce à cette architecture des couches du cortex dans différentes zones, a pu, en quelque sorte, cartographier le cortex. Brodmann a eu une idée très intéressante, c'est qu'il a numéroté les aires. Entre parenthèses, les numéros des aires de Brodmann sont toujours utilisés. On parle toujours de l'aire 4, de l'aire 44, de l'aire 25, etc. Les neurologues, les neurophysiologistes, les neuropsychologues continuent d'utiliser la nomenclature de Brodmann. Une astuce de Brodmann, peut-être même, je dirais, un trait de génie, c'est d'avoir numéroté les aires à partir du sillon central. Ce sillon central, je vous l'ai dit, existe chez tous les mammifères. Et c'est un trait donc qui est constant d'un cerveau à l'autre. Donc, en numérotant les aires à partir des sillons centrales, Brodmann a inventé implicitement un système qui permet de comparer les cerveaux des différentes espèces les uns avec les autres. On va voir un exemple dans un instant. Alors, vous voyez ici le sillon central, et vous voyez que les petits numéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est un petit peu comme les arrondissements de Paris. Vous voyez que ça grandit dans ce sens et dans ce sens. Les aires sont numérotées à partir du sillon central. Et pour vous donner tout de suite une idée de l'importance de cette idée, eh bien ici, vous comparez avec un cerveau de singe, un cerveau de cercopithèque. Vous voyez que le sillon central est là. Donc, on retrouve autour du sillon central les aires 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois que la 8 est par là. Vous voyez qu'il y a donc une possibilité de constituer une espèce d'homologie entre le cerveau du singe, sur lequel on connaît beaucoup de choses, parce qu'évidemment, on a fait beaucoup d'expériences chez le singe, on a examiné le cerveau du singe de toutes les façons, et ça permet de faire des analogies, et peut-être même des homologies, avec le cerveau de l'homme, où malheureusement, on connaît beaucoup moins de choses. Donc, cette découverte de Brodmann, à partir de la lamination du cortex, est une découverte fondamentale, qui nous montre donc un premier exemple du groupement des cellules en fonction de leur morphologie et de leur connexion. On va voir maintenant d'autres exemples plus modernes qui vont vous montrer que ce principe de ce qui se ressemble s'assemble va beaucoup plus loin en fait que simplement les couches corticales. Alors, je vais vous en montrer deux exemples qui sont tous les deux pris dans le cortex visuel, c'est-à-dire la partie du cortex occipital. Et le premier exemple que vous voyez ici, c'est un exemple qui est pris à l'intérieur de la couche 4 du cortex visuel. Donc là, imaginez le cortex visuel avec ses couches superposées, et maintenant, pratiquez une espèce de section longitudinale, si on peut dire, le long de la couche 4. Et vous voyez ça. Alors, ici, les neurones sont groupés. Certains sont dans les bandes sombres, comme vous voyez ici. Certains sont dans les bandes claires. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ce sont des bandes qui correspondent aux connexions qui viennent vers ces neurones de chaque œil. Tous les neurones du cortex visuel reçoivent des informations qui viennent des deux yeux, mais ils sont en quelque sorte dominés par un œil. Certains neurones reçoivent plus de l'œil droit, d'autres reçoivent plus de l'œil gauche. Et ces feuillets que vous voyez ici, en quelque sorte, représentent des feuillets de dominance oculaire. Ici, vous avez les neurones qui reçoivent leur connexion majoritairement de l'œil droit, par exemple, ici de l'œil gauche, ici de l'œil droit, ici de l'œil gauche, et ainsi de suite. Il y a donc une classification, un classement des neurones qui sont assemblés, en quelque sorte, cette fois en fonction de leur fonctionnalité, c'est-à-dire la partie du champ visuel qu'ils voient et l'œil, en quelque sorte, qui leur envoie leurs informations. Alors, comment ce diapositive est obtenu? Vous êtes peut-être curieux de savoir. Eh bien, c'est une expérience où on place dans un œil un matériel radioactif, une protéine radioactive avec du tritium, et cette protéine va migrer le long de l'axone du nerf optique, elle va traverser plusieurs synapses, elle va arriver dans le cortex, et si vous avez placé votre protéine dans l'œil droit, eh bien, elle va venir marquer, irradier en quelque sorte, ces neurones-là. Donc ces petits points brillants, ce sont les terminales qui contiennent du tritium et qui viennent d'un œil, donc ici, dominance de l'œil qui a été injecté, œil droit par exemple, l'œil qui n'a pas été injecté, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'à l'intérieur de cette couche 4, où il y a un certain type de neurones, eh bien il y a à l'intérieur de cette couche 4 des neurones qui font une chose et d'autres neurones qui font d'autres choses et ils se groupent. Un autre exemple. Ici, il s'agit toujours, voilà ce fameux lobe occipital, voilà la section ici qui est pratiquée à l'intérieur de la couche 4, et voilà, une fois que vous avez mis cette section sur une plaque de verre, que vous la regardez au microscope, voilà ce que vous voyez, mais cette fois, colorée non pas, ou marquée, non pas avec le tritium comme tout à l'heure, mais marqué avec un produit qui traduit l'activité des neurones. Et là, il s'agit du cytochrome oxydase, qui est une espèce de transporteur d'énergie qui est plus présent dans certaines cellules. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les cellules qui sont situées dans les taches, ce que l'Américain qui a trouvé ça a appelé des blobs, donc les cellules qui sont dans les blobs sont sensibles à la couleur, ce sont les neurones qui voient la couleur, alors que celles qui sont situées entre les blobs ne voient pas la couleur. Donc vous voyez, couche 4, à l'intérieur de la couche 4, les feuillets de dominance oculaire, et à l'intérieur des feuillets de dominance oculaire, les blobs, c'est-à-dire les neurones qui voient la couleur. Donc tous ces principes d'organisation emboîtés les uns dans les autres, qui montrent que les neurones à l'infini se répartissent selon leur spécialité. Alors, pour maintenant entrer dans la fonction véritable du système, et pas seulement sa description anatomique, je vais vous décrire de façon un peu plus détaillée un exemple. C'est le système qui contrôle nos mouvements, c'est-à-dire le système du cortex, qu'on appelle le cortex moteur, celui qui est responsable de nos mouvements. Et à travers cet exemple qu'on va décrire, on va voir émerger un certain nombre d'autres principes. Alors, en même temps qu'on va traverser le système moteur, vous allez avoir une idée des différentes méthodes qui ont été utilisées au cours du temps, et toujours maintenant, pour décrire les fonctions cérébrales. Il y a essentiellement, on va en traverser essentiellement trois. La première et la plus ancienne, évidemment, c'est la technique neurologique. Le neurologue constate un déficit, il l'observe, il le décrit, il fait ce qu'on appelle une observation, et puis ensuite, surtout autrefois, maintenant c'est moins le cas, mais autrefois, on pratiquait une autopsie et on trouvait la lésion et on faisait la confrontation anatomo-clinique entre les signes cliniques et la lésion. Ici, vous avez un exemple typique d'une observation réalisée par réalisée en fait par un Italien, en 1885, mais collationné dans un livre qui a été écrit par Charcot. Charcot était un grand neurologue qui travaillait à la Salpêtrière dans les années 1870 et qui s'est intéressé aux localisations motrices, c'est-à-dire à cette partie du cerveau qui organise les mouvements. Alors voilà, on peut lire cette observation rapidement. Donc il s'agit d'une monoplégie brachiale gauche. Monoplégie, c'est une paralysie. Donc c'est une personne qui avait une paralysie du bras à gauche. Donc c'est une femme qui se plaint d'une paralysie, etc. Donc voilà, l'observation est décrite. Une légère paralysie de la moitié gauche de la face du membre inférieur gauche. Les jours suivants, la paralysie se limite au seul membre supérieur gauche. Donc voilà l'élément essentiel de l'observation. C'est une paralysie du membre supérieur gauche. Malheureusement, cette femme décède. Et à l'autopsie, on trouve un foyer de ramollissement, une lésion vasculaire, située dans cette région-là. Et Charcot, grâce à de très nombreuses observations qu'il avait faites lui-même ou qu'il avait prises dans la littérature, comme celle-ci, a réalisé une carte, en quelque sorte, des zones, des zones dont la lésion produisait des déficits. Et ça a été la première carte motrice chez l'homme qui a été réalisée à partir de la confrontation anatomoclinique. Mais évidemment, il y a d'autres méthodes, peut-être plus précises et en tout cas plus rapides, qu'on peut réaliser chez l'animal, par exemple. Et ici, il s'agit d'un travail qui a été réalisé en 1890 par un Anglais dont on va voir le portrait dans un instant, par Sherrington. Et Sherrington a été un de ceux qui ont découvert que le cortex cérébral, si on l'excitait avec des petites électrodes, si on faisait passer des petits courants électriques, c'était, une partie de ce cortex était excitable, c'est-à-dire que l'excitation du cortex produisait des contractions musculaires. Donc ici, vous avez la carte des points dont la stimulation provoque des contractions musculaires dans la moitié opposée du corps. Donc ici, lorsque vous stimulez, vous obtenez des contractions musculaires dans la jambe, dans le bras, dans le cou, la langue. Et vous voyez donc qu'il y a plusieurs informations importantes sur cette diapositive. D'abord, tous ces points sont situés en avant du sillon central, dans le lobe frontal, dans l'R4, première chose. Deuxième chose, ces points correspondent, ça on ne le voit pas sur la diapositive, mais ils correspondent à l'origine d'un ensemble, de ce qu'on appelle un faisceau, c'est-à-dire un gros ensemble de fibres qui descend, qu'on appelle le faisceau pyramidal, qui descend jusque dans la moelle, en croisant la ligne médiane. Et on a donc ici une explication par la stimulation électrique de la fonction de cette R4 par cette découverte de Sherrington. Alors ce qui est important, c'est que si on superpose cette carte à celle que faisait Charcot, on s'aperçoit que ici, on va obtenir par stimulation électrique des contractions musculaires dans le bras. Et lorsque cette zone-là est détruite, eh bien, on va avoir une paralysie du bras. Donc vous avez déjà ces deux méthodes qui, en quelque sorte, se renforcent l'une l'autre. Je reviens sur Charcot. Vous voyez que cette zone-là est située à peu près au même endroit que cette zone-là, au milieu de l'R4, qui est la zone dont la stimulation provoque les mouvements dans une zone déterminée. Donc il existe une organisation topographique des connexions entre le cortex et la moelle épinière. On va voir d'autres exemples de ça. Voilà Sherrington, donc un prix Nobel de médecine dans les années 1930. Et voilà une démonstration qui est probablement encore plus convaincante parce que cette fois, elle a été réalisée chez l'homme. Alors, après Sherrington, disons que dans les années 1930, un certain nombre de neurochirurgiens se sont avisés que ce serait pratique, au cours d'une intervention chirurgicale, neurochirurgicale, où on découvre en principe qu'une toute petite partie du cortex, pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer, il serait utile, en stimulant très faiblement le cortex, de savoir en quelque sorte dans quelle région du cerveau on se trouve. Le chirurgien peut, disons qu'il y a une certaine description du cortex, mais quand on est dans un champ opératoire, ce n'est pas toujours très facile. Donc ici, il s'agit de résultats qui ont été faits obtenus par un neurochirurgien canadien qui s'appelle Penfield, qui, au cours de sa carrière, a stimulé un point, deux points, trois points chez chaque malade, en quelque sorte, et a obtenu, à force, une carte des points qui, dans le cortex de l'homme, provoque des contractions musculaires. Vous voyez que ici, ce sont les mouvements des doigts, et pratiquement tous les points stimulés se trouvent, comme chez le singe, bien entendu, en avant du sillon central, qui est là. Il y a quelques autres points un peu plus difficiles à expliquer. Et donc, on a ici une confirmation éclatante de cette organisation topographique. Chez l'homme, c'est la même chose que chez le singe. On le savait, disons, par la confrontation entre les résultats obtenus avec les lésions chez l'homme, mais disons que là, on en a une confirmation. Alors, au total, on obtient ce dessin que vous avez certainement vu un peu partout, qui est une espèce de coupe du cerveau un peu théorique qui passerait par le sillon central, et où vous voyez donc sur l'R4, en quelque sorte, les segments du corps correspondants. Donc la jambe en haut, la main au milieu, la face en bas, et toutes ces régions, en quelque sorte, on connaît maintenant leur organisation topographique, à la fois par la stimulation électrique et par la confrontation anatomoclinique. Alors maintenant, c'était la deuxième méthode anatomoclinique, stimulation. Il y en a une troisième, évidemment, beaucoup plus moderne, c'est la neuroimagerie. La neuroimagerie donc, permet d'examiner un cerveau, cette fois, chez un sujet vivant, d'une part, et d'autre part, chez un sujet normal, sans qu'il ait besoin de réaliser soit des opérations neurochirurgicales, soit des autopsies. Et ce sont des méthodes qui permettent d'examiner, en quelque sorte, le cerveau en train de fonctionner. Donc des méthodes qui sont à la fois anatomiques, puisqu'on voit le cerveau, comme vous allez le voir dans un instant, et à la fois physiologique, fonctionnelle, puisqu'elles permettent, chez un sujet normal, de réaliser des cartes de la fonction, cette fois, et non plus seulement de l'anatomie. Alors, je vais vous montrer, peut-être qu'il faudra diminuer la lumière, je vais vous montrer deux cartes obtenues avec ces méthodes de neuroimagerie. Cette première carte, est obtenue avec une méthode dite de résonance magnétique nucléaire. Alors, c'est un petit peu compliqué, je ne pense pas que je vais prendre le temps d'expliquer ce que c'est que cette méthode d'imagerie par résonance magnétique. C'est une méthode, disons, assez courante maintenant, qui permet d'examiner en gros la quantité, le flux sanguin, en quelque sorte, qui traverse une zone cérébrale à un moment donné. Alors, le flux sanguin est relié, évidemment, à l'activité d'une zone cérébrale. Plus une zone cérébrale est active, plus elle est irriguée, parce que plus elle consomme d'oxygène, donc plus elle a besoin de sang, plus le flux sanguin est augmenté, et ce flux sanguin, donc, on peut le visualiser par cette méthode. Donc, les zones qui sont marquées par ces systèmes de couleurs, ici, sont des zones qui, à un moment donné, sont actives. Alors d'abord, l'anatomie. Ici, vous avez le cerveau coupé horizontalement. Ici, vous avez la scissure entre les deux hémisphères. Ici, vous avez l'hémisphère gauche. Alors bon, les radiologistes inversent toujours, ils mettent la gauche à droite. Bon, ça, c'est un détail. Donc ici, vous avez l'hémisphère gauche et ici, vous avez l'hémisphère droit. Cette zone ici, et là, c'est le sillon central, c'est la naissance du sillon central, disons, coupé, et vous en voyez un morceau comme ça. Alors ici, le sujet, c'est un sujet normal, un membre de mon laboratoire, en fait, puisque ça s'est passé chez nous, à qui on demandait de faire des mouvements de la main droite, répétés comme ça pendant une dizaine de secondes, et pendant qu'il faisait ces mouvements, on enregistrait l'activité de son cerveau. Et voilà ce qu'on constate. Donc, lorsque le sujet réalise des mouvements de ses doigts du côté droit, eh bien, on a une activité importante, comme vous voyez, marquée en rouge ici, dans la partie pré-centrale, c'est-à-dire la partie qui est située en avant du sillon central, dans l'R4, de l'hémisphère gauche. Vous avez également un peu d'activité ici, dans une autre zone motrice, dont je ne parlerai pas, qu'on appelle l'aire motrice supplémentaire, qui est une zone qui est également marquée lorsqu'on réalise des mouvements des doigts. Donc ici, on a évidemment c'est plus facile d'avoir avant eu tout ce qu'a fait Charcot et Sherrington, etc., puisqu'on avait besoin de ces bases. Mais maintenant, ce que Charcot et Sherrington disaient, on le voit. Et on le voit chez un sujet vivant en train de bouger les doigts. Et on a ici, dans l'aire 4, la partie correspondant aux doigts, une activité motrice. Je vous signale ça parce qu'on reviendra tout à l'heure là-dessus. Vous constatez que c'est la même chose à peu près. Vous voyez l'activité un peu moins importante, toujours dans cette région-là et dans la région motrice supplémentaire, lorsque le sujet non pas bouge les doigts, mais lorsque je pense qu'il bouge les doigts, lorsque le sujet imagine ou simule en quelque sorte un mouvement des doigts. Donc bouger et imaginer qu'on bouge, sur le plan fonctionnel, c'est à peu près la même chose. On reviendra à ça tout à l'heure. Voilà une autre méthode cette fois, toujours de la neuroimagerie, mais réalisée avec une autre technique. Je m'excuse de vous bousculer un peu avec les techniques, mais maintenant les choses évoluent très vite. Et ici, il s'agit d'un scanner réalisé par la caméra à émission de positons. Alors, disons que le principe est très différent. Là, c'est de la radioactivité. Avant, c'était de la résonance magnétique. Mais en fait, on montre la même chose. Ce sont toujours les zones qui sont les plus irriguées, qui sont les plus marquées et les plus actives. Donc, ici, vous avez un cerveau vu de côté, vu de face et vu de dessus. Imaginez un espèce de cerveau transparent. Lorsque un sujet, en fait des sujets, là c'est une moyenne de plusieurs sujets, mais peu importe, lorsque un sujet exécute un mouvement du bras. Alors ici, l'expérimentateur, qui est le docteur Chollet de Toulouse, a voulu, au contraire, marquer l'ensemble des zones du cerveau qui sont impliquées lorsqu'on réalise un mouvement du bras, pas seulement un mouvement des doigts, mais un mouvement un petit peu complexe du bras. Alors, ce qu'on constate sur ce cerveau transparent, c'est que on a une forte activité ici, ici, c'est-à-dire dans l'air 4, pratiquement, la zone du bras de l'air 4, vous voyez, c'est toujours cette même zone qu'on voyait sur les dessins de Charcot, sur les dessins de Sherrington. Mais on constate qu'il y a aussi un peu d'activité ici dans la région centrale, c'est l'aire motrice supplémentaire. Et puis vous en voyez aussi dans cette région-là, très, très bas située, c'est le cervelet. Donc, lorsqu'on réalise un mouvement du bras, eh bien, on active l'air 4, on active le cervelet et on active aussi d'autres parties du cerveau dont je ne parlerai pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, on va le voir dans un instant, lorsque cette zone-là est détruite, eh bien, évidemment, il se produit cet accident si répandu, malheureusement, c'est l'hémiplégie, avec, comme vous le voyez ici, cette difficulté, cette marche bien caractéristique, cette paralysie du bras, quelquefois aussi une paralysie faciale. Alors ici, l'hémiplégique que vous avez sous les yeux est quelqu'un qui a déjà eu sa lésion depuis assez longtemps et qui a récupéré en partie, il a repris la marche. Il a encore une paralysie pratiquement complète du bras, mais il a déjà récupéré en partie. Et à quoi ressemble le cerveau, si on le compare au cerveau d'un sujet normal, à quoi ressemble le cerveau d'une personne qui a partiellement récupéré de son hémiplégie? C'est ce que le docteur Chollet a montré en réalisant le même examen, mais cette fois chez des malades ayant récupéré en partie d'une hémiplégie. Alors, vous voyez qu'il s'agit de la même expérience que tout à l'heure. Je vais peut-être revenir brièvement sur cette diapositive. Donc ici, il s'agissait d'une tâche réalisée par le sujet qui était dans son scanner. Il devait réaliser des mouvements du bras gauche. D'accord ? Et ces mouvements du bras gauche activaient le cortex moteur du côté opposé, c'est-à-dire le cortex moteur du côté droit. Alors maintenant, chez des sujets qui ont une hémiplégie gauche, à qui on demande d'essayer de bouger le bras gauche, ils ont du mal à le faire, mais ils essayent. Ils y arrivent un petit peu. Alors, pouvez m'aider là. Ça passe. Voilà. Alors, donc cette fois, ils continuent à essayer le bras gauche. Donc, ils ont une hémiplégie gauche, c'est-à-dire que le cortex moteur du côté droit est détruit. Et effectivement, vous ne voyez plus d'activité ici, ou presque plus, parce qu'il y a une lésion. Mais que se passe-t-il dans ce cerveau qui a subi cette lésion, cette agression du côté droit, et qui maintenant essaye de récupérer pour recommencer à produire des mouvements? Eh bien, le sujet utilise maintenant le cortex du côté opposé. Donc, vous voyez que la récupération se fait en augmentant, en quelque sorte, la zone active et en utilisant essentiellement la zone du côté opposé. Et vous constatez aussi une beaucoup plus forte activité dans le cervelet. Le cervelet, cette fois, est activé des deux côtés. Donc, c'est une réorganisation du cerveau qui s'est produite à la suite de la lésion pour, en quelque sorte, essayer d'adapter le cerveau à sa nouvelle condition et surmonter les effets de la lésion, sous l'influence d'une réhabilitation ou d'une rééducation. Donc là, on touche du doigt, disons, si je peux dire, les limites de cette organisation, de cette fameuse organisation du cerveau dont je vous parlais au début, ces connexions qui sont établies selon ce plan, en quelque sorte, au cours du développement. Ce plan n'est valable que si le cerveau est intact et s'il s'est développé sans obstacle. C'est un équilibre qui se réalise entre des populations de neurones et des fibres qui réalisent les connexions. Si l'équilibre est détruit par une lésion, à ce moment-là, les connexions, évidemment, se modifient. Alors, ici, nous avons un exemple d'une modification et d'une réorganisation chez des sujets malades. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, comme je vous l'avais annoncé au début, il faut aussi considérer le cerveau normal qui, lui, continue à se réorganiser ou continue à s'organiser et à se modifier au cours du développement. Alors là, je vais vous présenter une expérience réalisée par des collègues américains que je vais vous décrire un tout petit peu en détail et qui va vous montrer de façon ce résultat très surprenant d'un cerveau, en quelque sorte, qui, au niveau local, évidemment, se réorganise ou se modifie en fonction des circonstances. L'expérience est la suivante. Est-ce que vous voyez bien, là? C'est en anglais, je suis désolé, mais... la tâche, donc, c'était des sujets normaux. Il y avait plusieurs groupes, des groupes de sujets qui s'entraînaient à cette tâche que je vais vous décrire, et des groupes de contrôle. Le groupe de sujets qui s'entraînaient devait apprendre à pianoter et à réaliser en quelque sorte cette gamme, ce pianotage, à une fréquence de 60 par seconde, fréquence qui était marquée par un métronome. Alors, le premier jour, vous constatez que le sujet fait de... Ça, je crois que c'est un sujet. Un exemple, c'est un sujet. Le sujet fait de nombreuses erreurs, il fait des fausses notes, il fait deux fois la même, etc. Vous voyez que l'aspect, en quelque sorte, de la performance du sujet n'est pas bonne, mais c'est normal. C'est quelqu'un qui ne sait pas jouer, qui n'est pas un pianiste. Et vous demandez de pianoter à 60 par seconde, c'est pas facile. Donc, tous les jours, pendant 5 jours, les sujets venaient au laboratoire le matin et faisaient des gammes jusqu'à le cinquième jour. Et vous voyez que le cinquième jour, la performance est parfaite. Vous le voyez ici, d'ailleurs. L'intervalle entre les touches, l'intervalle de temps entre les touches, qui, là, a tendance à diminuer progressivement, et la variabilité de la performance, vous voyez, diminue considérablement. C'est normal, les sujets apprennent, ils vont de plus en plus vite, et ils font de moins en moins de fautes. Et effectivement, d'ailleurs, les erreurs diminuent, si bien qu'au cinquième jour, les sujets ne font plus d'erreurs. Ici, vous avez les sujets de contrôle. Alors, les sujets de contrôle, c'est amusant, si on veut. Ils venaient au laboratoire, aux mêmes heures, mais au lieu de pianoter, ils entendaient simplement le métronome, ils regardaient les touches, mais ils ne bougeaient pas les doigts. D'accord ? Donc, vous voyez, pas d'amélioration. Quand on les testait, disons, à la fin, bien, on constatait qu'ils faisaient des erreurs comme n'importe quel sujet le premier jour. Donc, un groupe de sujets qui apprend, un groupe de sujets qui regarde. Alors, l'expérience maintenant consiste à réaliser une stimulation électrique du cerveau. Alors, je vous rassure tout de suite, cette stimulation électrique telle qu'elle était pratiquée par Sherrington et par les neurochirurgiens après, c'était une stimulation directe. Maintenant, il est possible de stimuler le cortex de quelqu'un par induction magnétique. C'est-à-dire on fait passer un champ magnétique intense, extrêmement bref, quelques microsecondes, au-dessus de la zone qu'on veut stimuler, et ça produit une petite étincelle électrique dans le cortex. Et mais disons que c'est devenu un examen de routine maintenant pour tester certaines fonctions neurologiques chez les sujets. Donc c'est quelque chose qui est absolument banal, je vous rassure tout de suite. Alors, les auteurs de cette recherche ont stimulé la zone du cortex, après l'avoir recherché, qui correspondait au fléchisseur, au muscle fléchisseur des doigts, ou au muscle extenseur des doigts, et ils ont noté le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et ainsi de suite, l'aire, en quelque sorte, la zone du cortex dont l'excitation produisait une contraction du muscle fléchisseur ou extenseur. Alors ici, vous avez peut-être... On va se focaliser. Non. Ah. D'abord, chez les sujets, en quelque sorte, qui ont travaillé. Et voilà le résultat. Alors, cette petite tache noire représente, en quelque sorte, l'aire corticale dont la stimulation provoque une petite contraction d'un muscle du doigt. Muscle fléchisseur, ici, ou extenseur, ici. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour. Vous voyez que l'aire augmente. C'est-à-dire que le fait de travailler, en quelque sorte, avec son doigt pour apprendre à pianoter très rapidement, augmente, en quelque sorte, la surface excitable, c'est-à-dire augmente, en quelque sorte, le nombre de synapses dans la région qui est sollicitée, en quelque sorte, et entraînée chaque jour. Bien entendu, si vous faites ce même travail avec l'autre main, la main qui, elle, n'a pas travaillé, vous voyez que l'air, en quelque sorte, et permettant d'avoir une contraction du muscle fléchisseur extenseur, ne se modifie pas. Alors, maintenant, ça, c'était les sujets entraînés. Le groupe de contrôle, on y reviendra dans un instant. C'est curieux. Le fait d'entendre simplement le métronome, de regarder les touches, eh bien, vous voyez qu'ils ont une augmentation qui est moins forte que les sujets entraînés. Qui est moins forte que les sujets entraînés, mais qui est néanmoins présente. Et l'explication de ça va venir dans un instant. Donc, ce qu'on peut dire, si vous voulez, la première conclusion de cette expérience, avant d'aborder la suite, c'est que le fait de s'entraîner, d'apprendre un instrument de musique, d'apprendre à taper à la machine, d'apprendre à tricoter, va, en quelque sorte, augmenter localement, provoquer une synaptogénèse locale, une augmentation de la zone des connexions, en quelque sorte, en fonction de l'utilisation de ces fibres et en fonction de l'augmentation du trafic, en quelque sorte, dans cette région. L'autre expérience qu'ils ont réalisée également, en fait, je vous en ai déjà dit un mot tout à l'heure, c'est de réaliser, chez d'autres groupes de sujets, alors soit l'entraînement physique, c'est-à-dire venir tous les matins et tapoter, etc., avec l'amélioration qu'on a constatée tout à l'heure sur les graphiques, et l'augmentation de l'air excitable. Bon, ça, c'est, on l'a déjà vu. Mais ils ont fait également de l'entraînement mental, c'est-à-dire qu'ils ont dit au sujet, vous ne touchez pas les touches, on vous envoie le métronome, et vous imaginez que vous tapez. Eh bien, croyez-le si vous voulez. Non, mais vous avez de bonnes raisons de le croire, je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, vous obtenez une augmentation de l'air excitable à peu près équivalente à celle qu'on obtient avec la pratique réelle, pratique mentale, pratique réelle. Vous avez vu tout à l'heure sur une des diapositives que je vous ai montrées, c'était l'imagerie fonctionnelle par résonance magnétique, vous avez vu que bouger ses doigts et penser qu'on les bouge, simuler le mouvement, ça provoque la même activité dans le cortex. Donc, ce n'est pas surprenant du tout que l'entraînement mental aboutisse à ce résultat Et tous les violonistes vous le diront, peut-être qu'il y en a dans la salle, les violonistes et les pianistes et les sportifs ont pris cette habitude depuis un certain temps de s'entraîner mentalement et ils constatent des effets tout à fait bénéfiques sur leur performance par la suite. Voilà, donc je voulais vous donner cet exemple qui vous montre, donc on a traversé le système moteur, on a vu son anatomie, on a vu les méthodes utilisées pour le décrire, on a vu sa réorganisation en cas de lésion, et on voit ici cette synaptogenèse qui se continue, en quelque sorte, tout au long de la vie, lorsqu'on apprend et lorsqu'on s'entraîne. Alors maintenant, nous allons passer à un second aspect qui va nous mener à des fonctions cérébrale, disons, d'un niveau plus élevé, si on veut, d'un niveau plus cognitif. Et c'est un second principe ou un énième principe d'organisation du cerveau, ce sont les connexions entre les aires corticales. Jusqu'à maintenant, nous avons insisté sur les populations de neurones, nous avons insisté sur qui se ressemble, s'assemble, sur, en quelque sorte, ces ensembles neuronaux qu'on peut décrire, qu'on peut stimuler, qu'on peut observer, qu'on peut imager. Maintenant, on va s'intéresser davantage aux connexions qui unissent ces diverses régions. Alors ici, c'est un vieux dessin qui date des années 1900 également, d'un livre de Dejerine, où Dejerine avait représenté toutes les connexions qui existaient entre les différentes aires corticales. Et on était ici dans une autre perspective. Vous avez la perspective localisationniste, dont on a beaucoup parlé, c'est-à-dire réaliser des cartes du cortex, etc., imaginer des localisations cérébrales. Ici, c'est une autre perspective qu'on pourrait appeler associationniste. C'est-à-dire imaginer que les fonctions ne sont pas le fait de telles localisations précises, mais sont le fait d'une association entre localisations. Je pense que vous voyez la différence et que, en fait, là, on est dans une logique qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus riche que simplement regarder une zone, la détruire, regarder les effets. Là, on a une potentialité beaucoup plus riche pour décrire des fonctions beaucoup plus complexes. Alors, grâce à ces premières descriptions anatomiques, on a réalisé une espèce de partition entre les aires corticales. Certaines aires, on les a appelées des aires primaires, parce que ce sont des aires qui reçoivent directement des afférences venues de la périphérie, de la rétine, de la cochlée, de la peau, ou bien qui envoient directement des informations vers les muscles. Donc ce sont ces aires-là, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup finalement. Ici, vous avez l'aire 4 que vous connaissez déjà. Ici, vous avez les aires 1, 2, 3, qui sont les aires de la sensibilité tactile. Ici, vous avez le pôle occipital, ce sont les aires visuelles. Et ici, vous avez les aires auditives. Ça, ce sont les aires primaires. Toutes les autres aires sont des aires secondaires ou encore associatives, parce que ce sont des aires qui ne reçoivent pas d'informations primaires venues directement de la périphérie, mais elles reçoivent des informations venues d'autres aires. Ce sont des aires qui traitent de l'information, en quelque sorte, au deuxième degré. Ce sont les aires associatives, et vous constatez que les aires associatives, finalement, c'est presque tout le lobe frontal, une grande partie du lobe temporal et une grande partie du lobe pariétal. Alors, il y a eu beaucoup de discussions au sujet de ces aires associatives, à tel point que certains auteurs faisaient une espèce de parallèle en disant les aires associatives sont celles qui augmentent le plus chez l'homme, elles sont donc propres à l'homme, premièrement. Deuxièmement, ce sont celles qui sont associatives, donc qui sont connectées entre elles et débarrassées en quelque sorte du traitement primaire, du traitement de l'information périphérique, donc qui font un traitement plus sophistiqué, un traitement de deuxième ordre. Et ce sont donc les aires cognitives. Donc vous voyez que si on suit ce raisonnement, qui à mon avis n'est pas loin d'être correct, eh bien ici nous avons les aires qui traitent les choses faciles, les choses élémentaires qui viennent de la périphérie, et ça c'est du traitement complexe, cognitif, dans les aires associatives. Ces aires associatives avaient d'ailleurs suscité beaucoup d'intérêt à l'époque. Là, on est toujours dans les années 1880-90, qui est en quelque sorte l'âge d'or de la description du cerveau. Et ici, vous avez un marquage que je ne vais pas décrire, mais qui est réalisé cette fois chez des cerveaux de fœtus, et où on regarde en quelque sorte la maturation des aires corticales. Et on constate que les aires qui sont adultes, en quelque sorte, qui sont matures en premier, ce sont précisément les aires primaires, vous voyez ici, R4, R1, 2, 3, l'aire auditive et l'aire visuelle. Alors que les aires associatives, les autres, mettent beaucoup plus longtemps à parvenir à maturation. Là aussi, c'était un argument qu'utilisaient les mêmes auteurs pour dire ce sont celles qui sont d'une part les plus récentes, elles sont apparues chez l'homme, ce sont celles qui mettent le plus longtemps à mûrir, et effectivement, les fonctions cognitives chez un enfant apparaissent malgré tout un peu plus tard que simplement les fonctions primaires d'entendre, de voir et de bouger. Donc, encore un autre argument qui montrait cette particularité des aires associatives. Oui, là, je suis allé un peu vite, excusez-moi. Alors, pour vous montrer un exemple de... Vous pouvez me mettre là. Qu'est-ce que je dois faire ? Voilà. Ici, simplement pour vous documenter en quelque sorte cette idée que les aires associatives apparaissent essentiellement dans le cerveau humain, eh bien, vous avez la comparaison d'un cerveau d'un singe, macaque, et d'un humain, avec ici une aire associative très, très caractéristique qui est l'aire 46. Et vous voyez que si vous comparez ces deux cerveaux, non pas seulement la taille, mais la répartition en quelque sorte des masses, vous voyez qu'un des développements en quelque sorte le plus important qui s'est produit au cours de l'évolution, si on peut dire, lors du passage progressif du primate non humain vers le primate humain, eh bien, c'est l'énorme expansion du lobe frontal. Et disons que parmi toutes les aires associatives qui ont été étudiées, celle qui maintenant est la plus étudiée, on va en voir des exemples, c'est le lobe frontal, avec ses fonctions cognitives qui commencent d'ailleurs seulement à être connues. Et comment ont-elles été connues ? Eh bien, grâce à un certain nombre d'observations, comme cette fameuse observation que je vais vous montrer là. C'est une observation qui a été reprise, vous voyez, dans la couverture d'un magazine. Et il s'agit d'un cas célèbre, en fait, qui a été observé autour... C'était la construction du chemin de fer aux États-Unis, donc je pense que ça doit remonter à 1850 ou 1860. Donc c'est une observation très ancienne d'un ouvrier qui s'appelait Phineas Gage. Et Phineas Gage était un très très bon ouvrier, un type extrêmement consciencieux, extrêmement sérieux, qui ne travaillait beaucoup, plaisantait jamais, etc. Et... était très respectueux de la hiérarchie, etc. Donc, disons que son comportement est très très bien décrit dans l'article du médecin qu'il a observé. Et un beau jour, Phineas Gage, en bourrant exactement comme je fais avec une barre à mine, en bourrant de la mine dans un trou de la poudre dans un trou pour faire exploser un rocher, eh bien la barre est partie. La poudre a explosé, la barre est partie, elle a traversé le crâne, elle est rentrée par là et elle est sortie par là. Donc, vous voyez, là, d'après la reconstitution, parce qu'évidemment, on dispose actuellement uniquement du crâne de Phineas Gage, mais pas de son cerveau, bien entendu, d'autant plus que Phineas Gage a survécu. On l'a emmené à l'infirmerie, on a lavé la plaie, etc., et il a repris son travail. Mais... Après quelques jours... Mais Phineas Gage avait subi une métamorphose extraordinaire. De sérieux qu'il était, appliqué, etc. Il était devenu un plaisantin. Facétieux, ne respectant plus la hiérarchie, se moquant du contremaître, etc. Jusqu'au point où il a abandonné son travail, il a passé d'un travail à l'autre, il est devenu complètement instable. complètement inadapté, disons, à la vie courante. Et il a même été une des attractions du cycle Barnum, où il se montrait avec sa barre de fer pour montrer à quoi il avait survécu. Et maintenant, disons que des auteurs comme Damasio, vous avez sans doute entendu parler des livres de Damasio, ont réinterprété le syndrome de Phineas Gage comme, en quelque sorte, la rupture des fonctions associatives du cortex frontal, ce cortex qui nous permet d'apprécier la situation, de prendre des décisions, de planifier nos actions en fonction de leurs conséquences, etc. Toutes choses qui, finalement, disparaissent progressivement chez des sujets atteints de démence, par exemple, ou d'atrophie du lobe frontal. Donc, on a maintenant, à la suite de cet exemple, peut-être un peu drôle, si on peut dire, mis le doigt sur les fonctions du lobe frontal dans leur ensemble, et on a une idée maintenant de ce que peuvent être des fonctions cognitives complexes. Alors, je ne vais pas m'en tenir là, je vais entrer dans le détail un peu plus d'une fonction cognitive plus complexe, mais peut-être plus facile à cerner, les fonctions du langage. Donc là, je vais passer maintenant quelques minutes à vous décrire, un petit peu comme je l'ai fait pour le cortex moteur, cette fois les parties du cortex associatif. Ça va ? Encore 5 minutes. Le cortex associatif en relation avec la production et la compréhension du langage. Donc, comme toujours, on va faire un petit point d'histoire. Donc, évidemment, on ne peut pas ne pas citer ici le grand prédécesseur qui est Paul Broca, qui, à quelques centaines de mètres d'ici, a réalisé en 1865 cette observation extraordinaire que le langage, les fonctions de langage, sont délimitées, localisées dans un hémisphère particulier, l'hémisphère gauche. Alors, Paul Broca avait observé ce malade, peut-être qu'il faut diminuer un tout petit peu la lumière, si c'est possible, dont on a conservé le cerveau. Le cerveau de ce malade, qui s'appelait M. Le Borgne, est toujours exposé, enfin est visible, je crois, au musée du Putrin. Donc, c'est le musée de l'assistance publique. On peut le voir. Et donc, c'est le cerveau d'un homme, c'est l'hémisphère gauche que vous voyez ici, d'un homme qui est devenu un beau jour aphasique. Aphasique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui comprenait ce qu'on lui disait, mais qui ne pouvait proférer aucun mot, sauf un seul mot qui était « tant », « tantant ». Et on lui disait « comment ça va, tantant ?»« Comment vous appelez, tantant ?» etc. C'est à tel point que dans l'hôpital, tout le monde l'appelait « tantant ». Mais un beau jour, tantant est mort, et Broca a prélevé son cerveau et a constaté cette lésion que vous voyez ici, dans le lobe frontal, qu'il a décrite avec beaucoup de précision, avec une modestie prémonitoire, parce que pour décrire sa lésion, il s'est contenté de la regarder sans couper le cerveau, ce qui fait que le cerveau est toujours intact, et qu'il y a quelques années, on a pu faire un scanner de ce cerveau. Donc c'est le cerveau de Tantan, vu par une méthode d'imagerie moderne, qui est le scanner X, qu'on réalise dans les hôpitaux. Et vous voyez que donc, ce sont 4 coupes horizontales. Vous reconnaissez ici donc, le lobe frontal, ici le lobe occipital, temporal. Et vous constatez qu'il y a ici un trou. C'est cette lésion assez massive du lobe frontal de l'hémisphère gauche qui avait provoqué cette aphasie, c'est-à-dire cette incapacité à trouver les mots, alors que le sujet, par ailleurs, semblait comprendre correctement ce qu'on lui disait. Alors, à partir de cette observation, eh bien, s'est construite toute une science, en quelque sorte, de la neuropsychologie du langage. Et je vais vous montrer, en terminant pratiquement, quelques images sur l'aspect d'un cerveau vu par l'imagerie moderne, cette fois, dans différents aspects de la fonction langagière. Alors, on va se focaliser d'abord. Oui, c'est pas très commode. Voilà. Donc, le langage, finalement, notre commerce avec les mots, c'est un commerce qui passe par plusieurs modalités. On peut lire des mots, c'est voir les mots. On peut écouter ce qu'on nous dit, c'est entendre des mots. On peut prononcer des mots, parler, ou on peut faire travailler notre système en pensant à des mots, en fabriquant des mots. Alors ici, vous avez l'aspect, en quelque sorte, du cerveau transparent, toujours cette même technique qu'on voyait tout à l'heure, chez des sujets normaux qui lisent, entendent, parlent ou produisent mentalement des mots. Donc ici, voir des mots. Alors, voir des mots, vous voyez que... J'espère que vous voyez quand même. C'est un peu mieux. Donc ici, vous reconnaissez le cerveau toujours, le lobe occipital, le sillon central, le lobe frontal. Alors, voir des mots, ça ne vous surprendra pas, ça active surtout des aires associatives qui sont localisées dans le lobe occipital et temporal. D'accord ? Écouter des mots. Alors, vous avez un très fort marquage de l'aire auditive, de l'aire primaire, c'est normal, puisque il y a des sons qui arrivent, mais vous avez aussi un marquage important dans toute cette zone supérieure du lobe temporal. Prononcer des mots. Alors là, prononcer des mots, c'est une action qui est presque motrice. Donc vous avez la partie du cortex moteur correspondant à la bouche et à la face qui est activée, mais aussi, comme vous le voyez, d'autres régions. Et puis finalement, ce que Tantan ne pouvait pas faire, générer des verbes, c'est-à-dire, je vous donne un mot, comme par exemple voiture, et vous devez fabriquer autant de verbes que vous pouvez, sans me les dire, associés au mot voiture. Rouler, conduire, etc. Donc cette activité fait travailler votre lobe frontal, comme vous le voyez ici, et c'est une grande partie du lobe frontal, dont la zone dite de Broca, qui est activée. Alors, si vous regardez maintenant, je pense que ça ne sert à rien que je vous le montre, parce que vous n'allez plus rien voir. Si vous regardez maintenant ces quatre images empilées les unes sur les autres, eh bien vous voyez que vous avez un réseau. Je crois que le terme d'association ici n'est pas abusif. Vous avez un réseau qui vous montre les différentes aires cérébrales, presque toutes associatives, comme vous le voyez, qui sont associées avec produire, lire, etc., des mots. Donc c'est l'ensemble du réseau qui constitue le réseau langagier. Alors, je vais terminer, je crois, par... Vous me redonnez ça. Ici, j'ai sorti, sous forme de diapositive, une de ces images qui me paraît tout à fait intéressante parce que, donc, générer des mots, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sans les prononcer, donc c'est une activité mentale. Vous voyez que l'air qui s'active, c'est très précisément, et même je crois que c'est intéressant de revenir, c'est très précisément l'air de Broca. Autrement dit, ici, on a 150 ans, hein, pratiquement 140 ans de traversée, de connaissance de la neuropsychologie du langage, et on trouve la même chose. La zone dont la lésion produit la perte des mots, l'aphasie, eh bien, c'est la zone qui est activée lorsque précisément on produit des mots. Alors, si le cerveau, parce que là, je vous ai dit au début, c'est l'hémisphère gauche qui est impliqué dans le langage, et je n'ai peut-être pas assez insisté sur les vignettes que je vous ai montrées tout à l'heure, mais c'était toujours l'hémisphère gauche qui était impliqué, qu'il s'agisse de lire, qu'il s'agisse d'écouter, de prononcer, etc. C'est toujours l'hémisphère gauche. Donc l'hémisphère gauche est l'hémisphère du langage. Pourquoi ? Eh bien, on a mis 100 ans exactement, depuis Broca, à s'apercevoir qu'en fait les deux hémisphères ne sont pas identiques. Et ici, vous avez un travail qui a été réalisé en 1960, donc 100 ans après Broca, par un Américain qui s'appelait Norman Geschwind, qui est mort là, il y a quelques années, et qui simplement s'est décidé un jour à regarder des cerveaux. Et il a trouvé à Boston une collection, dans un laboratoire d'anatomie, de cerveaux, de gens normaux. Et il a réalisé une préparation très simple, une section du cerveau, et il a observé, mesuré, simplement avec du papier d'argent, une chose extrêmement simple, une partie du cortex qui est ce qu'on appelle le plan temporal. Le plan temporal, c'est une zone qui est située exactement ici, qu'on voit lorsqu'on réalise cette coupe et qu'on enlève la partie supérieure de l'hémisphère. Et ici, donc, vu de dessus, vous avez le plan temporal. Et vous avez pu constater tout à l'heure que dans le lobe temporal gauche, lorsque le sujet écoute les mots et entend les mots, il y a une zone particulière qui est activée, qu'on appelle la zone de Wernicke, qui est une zone dont la lésion provoque également des aphasies du côté gauche. Eh bien, vous voyez que cette zone de Wernicke est considérablement plus étendue du côté gauche que du côté droit. Vous avez une asymétrie considérable du cerveau chez tous les sujets droitiers en faveur de l'hémisphère gauche, ce qui explique en partie cette prédominance, ce rôle en quelque sorte, cette dominance de l'hémisphère gauche pour les fonctions du langage. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais peut-être qu'on aura d'autres occasions pour continuer. Donc, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que le cerveau, à partir de ce système élémentaire de connexion entre neurones, est un système qui aboutit à un certain nombre de... à une organisation, en quelque sorte, où les populations de neurones se groupent en fonction de leur fonctionnalité et de leur rôle, en quelque sorte, dans le comportement, qu'il y a des associations entre ces populations qui réalisent des réseaux et que les fonctions cognitives sont des fonctions où tel réseau s'active. Lorsqu'on parle, ou lorsqu'on entend, ou lorsqu'on réfléchit, ou lorsqu'on raisonne, c'est tel ou tel réseau qui s'active avec une espèce de configuration du cerveau qui change à chaque instant lorsque nous sommes engagés, en quelque sorte, dans des activités cognitives. Donc le cerveau, il faut le voir évidemment comme un organe avec son organisation interne, avec ses règles d'organisation, avec son plan d'organisation au cours du développement, mais il faut le voir aussi comme une structure dynamique qui se modifie en permanence, enfin qui modifie son activité en permanence, et qui même, comme vous avez pu le voir dans un certain nombre de circonstances, peut modifier sa structure au cours de l'apprentissage, au cours de la récupération fonctionnelle, etc. Donc c'est un organe qui est essentiellement dynamique et plastique. Je vous remercie de votre attention.
Alors, nous allons passer aux questions. Nous avons 10 petites minutes. Alors, il y a des questions devant. Je ne sais pas, sans le micro.
Le micro.
Attendez.
On va attendre le micro.
Attendez le micro, sinon... madame, il arrive juste.
Voilà, c'est
donc, madame d'abord.
Voilà, parlez bien dans le micro, comme ça.
Oh. Les synapses qui se forment pendant par l'entraînement sont permanentes, ça reste dans le cortex.
Alors ça, je crois que c'est une question fondamentale. Non, je dirais que ce sont des synapses qui sont labiles et qui, si on, lorsque vous ne vous entraînez plus. Un musicien qui ne fait plus de violon pendant 10 ans, il va être moins bon après. Donc, il va forcément perdre, en quelque sorte, une partie de la synaptogénèse qu'il avait acquise quand il s'était entraîné. Donc, il y a à la fois ça s'étend lorsque vous vous entraînez, et à la fois ça se rétracte lorsque vous arrêtez de vous entraîner.
Une autre question. La théorie de Paul MacLean, on n'en parle plus?
Alors, il faudrait d'abord expliquer la théorie de Paul MacLean, ensuite dire pourquoi on n'en parle plus. C'est ce qu'on a appelé la théorie des trois cerveaux, c'est ça, vous faites allusion à ça, oui. Bon, Paul MacLean avait eu une idée peut-être intéressante, que notre cerveau était en quelque sorte l'empilage ou l'emboîtement du cerveau des reptiles, dans un premier temps, puis du cerveau des prés, des mammifères un peu archaïques, et puis ensuite le cerveau humain. Donc, une partie de notre cerveau qui est surtout un cerveau moteur pour se défendre, pour organiser son territoire, etc., reptilien. Une autre partie qui est un cerveau émotionnel pour réaliser les liens sociaux, etc., et une partie cognitive pour réaliser les opérations intellectuelles, etc. Je ne suis pas sûr, moi, que ça se soit passé comme ça, mais je ne suis pas sûr que les petits mammifères, par exemple, n'aient pas aussi une vie intellectuelle ou une vie émotionnelle. Je ne pense pas qu'on puisse faire cette segmentation comme ça. Mais disons qu'il y a un fond de vérité. C'est vrai que les cerveaux les plus primitifs sont des cerveaux qui sont surtout réactifs, moteurs, et puis les cerveaux les plus évolués, comme le nôtre, ont des capacités d'abstraction. Donc, il y a un fond de vérité dans l'hypothèse de MacLean, mais disons qu'elle a de gros défauts sur le plan anatomique, et ce qui fait qu'on l'a...
Bonsoir, monsieur. Vous n'avez pas parlé du rôle du bulbe rachidien, parce que je pensais qu'en cas de dommages sur le bulbe rachidien, on pouvait devenir hémiplégique, et c'est absolument indépendant de la maladie.
Alors, vous avez parfaitement raison, mais il faut bien voir que la configuration, le bulbe rachidien, c'est cette partie, c'est ce qu'on appelle la tige du cerveau. Les Anglais ont ce terme de brain stem, c'est-à-dire la tige du cerveau, c'est-à-dire c'est l'endroit qui devient, qui rassemble toutes les fibres, c'est un entonnoir finalement, et lorsqu'il y a une lésion à cet endroit-là, à ce moment-là, vous pouvez avoir des paralysies, vous pouvez avoir des troubles respiratoires, vous pouvez avoir toutes sortes de choses. Ça ne veut pas dire que les fonctions sont localisées là, ça veut simplement dire que c'est là que passent les fibres. Donc c'est une zone de passage si vous faites la lésion forcément. À la limite, si vous arrive d'avoir une section complète de la moelle juste en dessous du bulbe, eh bien vous allez avoir une paralysie complète des quatre membres. Bon, c'est pas pour ça que vous avez atteint le mécanisme de la fabrication des mouvements, c'est simplement des fibres de passage.
Est-ce que vous pourriez vous lever ? Merci.
Oui, bonsoir. Moi, je voulais vous poser une question justement par rapport, on a vu, au développement des aires avec l'entraînement ou avec rien que la pensée. Est-ce que ça veut dire qu'on n'utilise qu'une seule partie de notre cerveau et qu'on peut développer, on a l'idée courante qu'on n'utilise que 10 ou 20% de nos capacités. Est-ce que cette idée-là est vraie ou est-ce que non, elle est fausse en fait ?
Alors, c'est une idée qui effectivement est très répandue, qu'on n'utilise qu'une petite partie de notre cerveau et que si on pouvait utiliser tout le cerveau, alors... on serait bien plus intelligent, etc. Je crois que c'est une idée qui a un fond de vérité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on se focalise sur une tâche, comme par exemple bouger le doigt, eh bien, il y a peu de zones du cerveau qui fonctionnent. Il y a surtout les zones motrices, et puis un certain nombre de zones qui contrôlent l'attention, la vision, mais disons qu'il y a peu d'autres choses qui fonctionnent. Mais si vous regardez un cerveau, mettons, sur le cours de la journée, par exemple, eh bien, vous allez voir... disons, sur un certain nombre d'heures, toutes les aires vont s'allumer les unes après les autres selon que le sujet est en train de penser, de réagir à une situation, de planifier une action, de répondre à des questions, etc., etc. Donc finalement, tout le cerveau sert, mais il ne sert pas tout en même temps. C'est une façon de répondre. Mais disons que je tiens aussi à le dire, c'est un concept qui est exploité par un certain nombre de méthodes, entre guillemets, de rééducation ou d'éducation tout court, pour augmenter la créativité, etc. Donc si on arrivait à faire travailler l'hémisphère droit, si on arrivait à faire ça, peut-être qu'on serait plus créatif, plus... je ne suis pas convaincu que le cerveau ait besoin de ça. Le cerveau, il sait faire à peu près tout ce qu'il a à faire et on sait s'en servir, en gros.
S'il vous plaît, monsieur, à propos de l'aphasie...
On pourrait penser que la séparation entre zone primaire d'un côté et tout le reste de l'autre est, comment dirais-je, peut-être améliorée. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, les agnosies, les apraxies, qui sont quand même des fonctions assez simples, ne pourraient pas être classées dans une zone secondaire par rapport à ce qu'est la zone primaire?
Bon, c'est vrai que lorsqu'on observe les déficits dus à des lésions, vous faites allusion à des symptômes qui surviennent chez des gens qui ont des lésions cérébrales. Lorsqu'on regarde les symptômes selon les lésions, alors la lésion des aires primaires, ça, c'est pratiquement des aires primaires visuelles, ça coupe tout. C'est-à-dire que vous avez pratiquement dans cette aire 17 dans le lobe occipital, là où arrivent toutes les fibres qui viennent de la rétine, si vous la détruisez, il n'y a plus de vision, pratiquement. Donc vous avez ce qu'on appelle une cécité corticale. Ce sont des gens qui, sans avoir rien aux yeux, ni dans le, ont une cécité, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent plus les gens, ils ne reconnaissent plus les objets, ils ne reconnaissent plus les visages, etc. C'est une cécité que les anciens, d'ailleurs, avec beaucoup de sagesse, avaient appelée la cécité psychique, parce que finalement, si ces gens, si vous leur faites un brusque mouvement, ils vont réagir. Ils n'ont pas perdu la vision, ils ont perdu, en quelque sorte, la connaissance de la vision. Alors, si les lésions sont situées plus en aval, dans des aires associatives, donc, visuelles, du lobe occipital, alors à ce moment-là, le déficit va se spécialiser, en quelque sorte. Ce sont des gens qui reconnaîtront les couleurs, qui auront un certain nombre de parties de leur vision qui sera préservée, mais ils ne reconnaîtront plus les visages, par exemple. Ou bien ils ne reconnaîtront plus les objets. Ils seront des grands handicapés, finalement, parce que ils auront perdu cette association nécessaire entre vision, mémoire, etc., qui permet de reconnaître les visages. Donc là, disons qu'on a une espèce de progression dans le cognitif au fur et à mesure qu'on va du primaire vers l'associatif et vers le secondaire.
Madame ?
Monsieur, vous venez de parler du psychisme. Freud a écrit un livre sur l'aphasie. Est-ce que vous l'avez lu ? Et est-ce que vous pensez que Freud travaillait sur ces aires associatives qui étaient momentanément interrompues par un stress ?
Alors, non seulement j'ai lu le livre sur l'aphasie, mais j'ai lu un autre article de Freud que les freudiens et les psychanalystes ne connaissent pas. C'est un article que Freud avait écrit pour une encyclopédie, qu'on appelle l'encyclopédie de Villaret, autour de 1870. Et Freud avait écrit un long article sur l'association. Et il disait, Freud était, ne l'oublions pas, un élève de Meinert, qui était un de ceux, vous avez peut-être vu son nom, qui avait inventé cette notion de fibre associative et d'association entre les aires cérébrales. Et Freud, un bon élève de Meinert, dans son encyclopédie, disait « Dans le cerveau, il y a des fibres d'association. Ces fibres unissent les aires cérébrales et en même temps, elles réalisent l'association à l'intérieur du psychisme. Elles unissent nos idées qui vont des pensées simples vers les pensées complexes lorsqu'elles s'associent de plus en plus. » Donc Freud, si vous voulez, historiquement, pour un historien des sciences, était un associationniste. Et peut-être qu'après, là, toute la topique freudienne qu'il a fabriquée, en quelque sorte, était dans cette ligne associationniste, avec évidemment une dynamique plus dynamique propre. Je pense que Freud était un grand connaisseur du cerveau. Malheureusement, il a peut-être oublié trop vite ses connaissances en matière de neurosciences, mais c'était quelqu'un qui, au moins au début, était un vrai neurophysiologiste.
Monsieur ?
Bonsoir, monsieur. Je voudrais savoir quels sont les effets du téléphone mobile sur le cerveau.
Là, j'ai pas de réponse sérieuse à donner. Donc je sais pas. On a parlé de ces ondes haute fréquence. C'est un peu comme si vous mettiez la tête dans un four à micro-ondes. Je sais pas. Non, je sais pas. Je suis désolé.
Donc, monsieur.
Oui. Quel rapport entre le cerveau et la main gauche et la main droite pour les gauchers et les droitiers avec.
Alors, vous posez une question qui est vraiment fondamentale, c'est pourquoi les deux hémisphères, finalement, ne sont pas pareils. D'abord, ils ne sont pas pareils, on l'a vu, et ils ne font pas la même chose. Alors, chez toutes les espèces animales, pratiquement, en tout cas quand on regarde déjà chez le chat, chez le chien, certainement chez le singe, il y a toujours une patte préférée, c'est-à-dire que le chien, il vous tendra toujours la même patte, en gros. Le singe aussi, s'il doit prendre de la nourriture, il utilisera toujours la même main. Donc il y a, si vous voulez, sur le plan adaptatif, un intérêt à ne pas avoir chaque fois à se poser la question laquelle j'utilise, et d'avoir une main préférée, une qui marche mieux, etc. Donc le principe de la main préférée, soit gauche, soit droite, existe pratiquement chez tous les gens, chez toutes les espèces qui se servent de leurs mains. Pourquoi chez l'homme, c'est toujours la main droite ? Toujours, enfin, dans 87%, disons, c'est la proportion, c'est la population des gauchers, c'est 87%, les droitiers, des droitiers et les gauchers, c'est environ 13%. Pourquoi ça ? Eh bien, parce que, il y a plusieurs théories. Je vais vous en donner une, c'est que dans un souci, en quelque sorte, de gagner de la place, parce que je crois que l'évolution, ça a toujours été comme ça, le cerveau se plisse de plus en plus, et on ne peut pas augmenter la dimension de la boîte crânienne à cause de la dimension du bassin, parce que si la boîte crânienne est trop grosse, le bassin ne pourra plus la laisser passer. Donc il y a cette contrainte fondamentale de l'accouchement qui fait que le cerveau ne peut pas augmenter de volume au-delà d'un certain volume. Donc il faut trouver des systèmes pour augmenter la surface corticale et augmenter la surface synaptique. L'applicature est un moyen. Le partage du travail entre deux hémisphères est un moyen. Pourquoi avoir deux hémisphères qui font chacun la même chose? Autant avoir un hémisphère qui fait ça et un hémisphère qui fait autre chose. Donc, disons que ce serait une des idées qui aurait prévalu lorsque la nature a décidé qu'on allait partager le travail entre deux hémisphères. Maintenant, bon, au-delà de cette simple spéculation, la réalité, c'est que les fonctions sont distribuées entre deux hémisphères et que des lésions à droite, par exemple, ne donnent pas du tout les mêmes effets que des lésions des mêmes régions à gauche, et vice-versa. C'est-à-dire, si vous faites une lésion, si on fait une lésion, pardon, dans son hémisphère gauche, on va être aphasique. Si on fait une lésion dans la même région de l'hémisphère droit, on ne sera pas aphasique. Donc, il y a un certain nombre de fonctions qui ne peuvent pas être partagées, qui doivent être distribuées dans les deux hémisphères. Par exemple, la fonction motrice, il faut que vous ayez quelque chose pour contracter vos muscles de chaque côté. Mais par contre, la fonction de décider de bouger, elle peut très bien être localisée seulement d'un côté. Ou la fonction d'organiser l'espace et c'est de réaliser cette espèce de cartographie qu'on fait quand on va à son travail ou quand on prend sa voiture, il suffit que ça soit fait dans l'hémisphère droit, il n'y a pas besoin que ce soit dupliqué de l'autre côté.
Madame, levez-vous.
Ah bon, ah voilà. Ça marche? Oui. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des connexions qui... quand elles n'ont pas été faites dans l'enfance, ne pourront jamais se faire. Et pourquoi, justement? Pourquoi elles ne pourraient pas se faire n'importe quand? Pourquoi il y a un moment donné...
Oui. Donc là, vous parlez de troubles du développement qui peuvent survenir à la suite d'un certain nombre de pathologies, disons, du développement, qui font que le cerveau va se développer de manière incomplète. Alors, il faut bien voir que, au début, le cerveau, c'est une. Vous avez des cellules qui commencent à germer, en quelque sorte, à partir d'une zone germinative. Elles vont se placer au bon endroit dans le cortex. Et ensuite, il faut qu'elles envoient leurs connexions, leurs axones. Et là, il y a un grave problème, c'est comment un axone qui va partir de la cellule A va traverser toute une région, plusieurs régions, et puis trouver finalement la bonne cellule où il doit s'arrêter. Donc, il y a un problème de signalisation chimique qui fait qu'il y a une sensibilité au bout de l'axone et il y a une cellule qui l'attire, je vous dis les choses de manière un peu schématique, qui font que les connexions vont s'établir de cette façon. Il va y avoir une reconnaissance entre la terminale et la cible. Si maintenant vous avez un déficit en protéines parce que vous avez un gène qui n'a pas fonctionné, vous avez un certain nombre de marqueurs qui ne vont pas être là et les fibres ne vont pas trouver leur cible et ne vont pas se connecter comme il faut. Donc c'est une des raisons, si vous voulez, qui expliquerait que la connexion se fait mal. Alors après, comment revenir dans un cerveau adulte, si vous voulez, relancer le processus, ça me paraît tout à fait illusoire. Et c'est pour ça que, malheureusement, ces déficits, une fois qu'ils sont acquis, il y a peu de chances qu'ils se... certains de ces déficits, il y a peu de chances qu'ils s'améliorent.
Oui. J'ai cru comprendre qu'il y avait une grande plasticité du cerveau, que tous les cerveaux étaient différents, chaque être humain. En même temps, il y a un plan d'ensemble. Alors, est-ce qu'il y a des différences entre l'homme et la femme? Est-ce qu'on a trouvé des aires plus développées chez la femme et moins développées chez les hommes?
Bon, non, tout à fait. C'est une question qui est très, très pertinente. Alors, donc, vous avez d'une part, tous les cerveaux sont pareils et en même temps, ils sont tous différents. C'est-à-dire, ils ont tous un plan d'ensemble qui est le même. Ce qui fait que l'anatomie est parfaitement constante. On retrouve toujours la zone motrice au même endroit, etc. Ça, y a pas de... Mais tous les cerveaux sont différents parce que, comme vous l'avez vu, notre expérience est toujours différente. Et donc, les zones synaptiques s'agrandissent, se multiplient, se modifient. Alors, maintenant, le cerveau, la différence homme-femme est un problème différent. L'homme et la femme, le garçon et la fille, disons, au cours du développement, ont des poussées hormonales à différents moments. Des poussées de testostérone, des poussées, etc., qui surviennent à certains moments chez la fille, à certains moments chez le garçon, ce qui fait que vous avez, d'ailleurs on le remarque très bien quand on observe le développement des petites filles et le développement des petits garçons, vous avez une asynchronie en quelque sorte, vous avez, les filles apprennent à parler peut-être un peu plus vite, j'en sais rien, les garçons à marcher un peu plus vite. Donc il y a des constantes en quelque sorte qui sont dues au fait que les poussées de testostérone, par exemple, ne se produisent pas au même moment et ce qui fait qu'il y a des zones qui maturent plus vite chez l'homme, chez la femme. Alors ça a un certain nombre de conséquences, qu'on ne connaît pas d'ailleurs très bien, mais il se peut qu'il y ait certaines zones qui soient plus étendues chez l'homme que chez la femme, à cause de ça justement, parce que à un moment critique du développement, ces zones ont reçu en quelque sorte le signal, un signal plus intense de poussée. Donc il y a des différences. Ces différences, disons qu'on n'arrive pas, elles sont statistiques. On n'arrive pas du tout à les trouver sur le plan individuel. Bon, alors il y a peut-être un corps calleux, c'est-à-dire cette espèce de grande commissure qui unit les deux hémisphères, qui est un peu plus épais, je crois, chez la femme. Il y a peut-être, quand on analyse la dominance hémisphérique, une répartition dans l'hémisphère droit qui est un peu moins claire chez la femme que chez l'homme, etc. Vous avez des nuances, en fait, qui sont pas surprenantes, après tout. Hein. Vous avez des... Alors, maintenant, il y a le fameux problème de la taille, parce que le cerveau de la femme est plus petit.
Deux dernières questions.
C'est un
fait. Non.
Attendez, non, mais je vais vous expliquer, attendez. Ne nous énervons pas. Simplement, on a longtemps cru qu'il fallait attacher de l'importance à la taille du cerveau. Et Broca, d'ailleurs, dans son institut d'anthropométrie, avait diagnostiqué, en quelque sorte, en regardant des crânes, que les crânes des hommes étaient plus grands que ceux des femmes, que les crânes des paysans étaient plus petits que ceux des gens des villes, que les crânes des gens riches étaient plus grands que les crânes des pauvres, etc. Et tout simplement, il y a un très bon livre d'un Américain qui s'appelle Gould, Steve Gould, qui s'appelle « La malmesure de l'homme », c'est-à-dire comment l'homme a été mal mesuré tout le temps, et parce qu'on ne prenait pas les bons indices. La capacité crânienne ne signifie rien si on ne la rapporte pas au poids du corps. Parce que le cerveau doit évidemment gérer la surface cutanée, la musculature, etc. Et plus le corps est gros et grand, plus il doit y avoir un cerveau apte. Donc, comme les hommes, en général, ont un petit avantage statural sur les femmes, eh bien, ils ont un cerveau qui est un petit peu plus grand, une capacité crânienne, disons, un cerveau qui est un peu plus gros. Donc, je crois que c'est la seule chose qu'on peut dire. Et c'est vrai que les peuplades, comme on disait autrefois, d'Afrique, qui sont petits, etc., ils ont évidemment des crânes plus petits. Donc, de là à dire qu'ils sont moins intelligents que nous, c'est facile. Mais on s'est aperçu que tout ça, si on ramenait en quelque sorte au coefficient, en quelque sorte au taux poids du cerveau sur poids du corps, on trouvait que c'était à peu près pareil dans toutes les régions du globe. Bon, alors. Bon, je vois pas bien le sens de votre question, mais disons que. Comme vous l'avez remarqué, j'ai pas abordé ce problème. C'est-à-dire que, évidemment, tous les neurones communiquent entre eux chimiquement. C'est-à-dire qu'il y a des médiateurs chimiques qui traversent cette petite fente qui s'appelle la synapse et qui vont exciter le neurone suivant. Donc, vous avez des corps comme la dopamine, la sérotonine, l'acétylcholine, etc., tous les peptides qu'on peut imaginer, la substance P, la progestérone, qui sont des médiateurs chimiques et qui, dans certaines parties du cerveau, ont des fonctions particulières d'activer certains systèmes. Les systèmes qui codent pour les émotions, par exemple, ne sont pas réglés du tout de la même façon que les systèmes qui codent pour les mouvements, etc. Donc, là, c'est une autre anatomie qui se superpose encore. Rappelez-vous que tout à l'heure, je vous ai montré à l'intérieur d'un exemple très particulier qui était celui de la couche 4 du cortex visuel, comment vous avez des organisations emboîtées. Eh bien, vous avez d'autres organisations qu'il faudrait rajouter encore, qui est l'organisation chimique du cerveau. Ça, c'était pas du tout mon sujet d'aujourd'hui. Je pense que M. Hacher, demain, c'est Hacher, hein, va aborder ce problème, donc c'est peut-être une occasion de revenir pour...
Monsieur ?
J'ai une remarque beaucoup moins...
Je suis ici. Ah, il y en a plusieurs.
Non, c'est moi d'abord.
C'est vous d'abord. Je vous en prie. Non, pas du tout, non. Non, d'abord, les anévrismes ne se rompent pas toujours, et quand ils se rompent, eh bien, si le neurochirurgien, s'il est bien, pas trop mal placé, si le neurochirurgien intervient, il place un clip sur l'anévrisme, et avec un peu de chance, ça marche. Attendez.
D'abord, j'ai un micro, donc je vais parler beaucoup plus fort. Et bon. J'ai une question beaucoup moins technique, et pour rester dans le sujet, si j'ai bien compris, des connexions entre neurones vont se créer au gré des apprentissages. A-t-on déjà remarqué des antagonismes ? C'est-à-dire, est-ce qu'un apprentissage pourrait détruire le travail produit par un autre apprentissage ? Ça, c'est une première question. Et une deuxième question, corollaire un petit peu, y a-t-il une limite aux connexions, une limite au cerveau ?
Alors, la première question, je n'ai pas de réponse à vous donner, parce que, bon, il faudrait que quelqu'un aille regarder ça, et, disons, avec déjà monter une expérience sur ce sujet, c'est assez complexe, et bon, donc je ne pense pas qu'il y ait eu de travaux sur cette question. Par contre, l'autre question, évidemment, est plus profonde en un sens, parce qu'y a-t-il des limitations à cette augmentation des connexions ? Est-ce qu'on ne pourrait pas devenir un jour qu'un cerveau de violoniste et ne sachant rien faire d'autre ou un cerveau de... Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des limites, parce que malgré tout, ces augmentations qu'on voit... que vous avez vu se produire dans certaines régions du cortex moteur, elles sont quand même limitées par l'anatomie, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain cas... Et puis, de toute façon, lorsque vous avez appris une tâche et que vous la faites de manière parfaite, et que vous faites zéro erreur, je ne vois pas pourquoi le nombre de synapses continuerait à augmenter. Vous êtes arrivé au maximum de la performance.
Plus on apprend, plus on a des apprentis, plus on apprend, moins il reste de place. Or, c'est un petit peu le contraire qui se passe, non ?
Disons que votre question est tout à fait pertinente. On a appelé ça, enfin, il y a une compétition pour l'espace synaptique. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Surtout au cours du développement, il y a une compétition pour l'espace synaptique. Et on voit d'ailleurs en cas de lésion, où, puisque un certain nombre de neurones sont détruits, leurs connexions meurent, disparaissent. Donc ça libère de l'espace synaptique sur d'autres cellules. Eh bien, ces espaces synaptiques libérés sont immédiatement captés par des synapses qui poussent, de voisinage, plus ou moins parasites, d'ailleurs, qui vont venir réaliser des connexions qui ne sont pas intéressantes sur le plan fonctionnel, mais qui vont venir, en quelque sorte, recouvrir... On pourrait dire que le neurone a horreur du vide et que dès que des synapses se libèrent, c'est immédiatement repris par quelqu'un d'autre. Alors, tout le problème, c'est justement de guider en cas de lésion. C'est tout le travail du rééducateur, si vous voulez. C'est par les méthodes de rééducation, les méthodes comportementales, de guider la repousse des synapses au bon endroit et d'éviter que ces synapses viennent se fermer, et que des synapses un peu parasites qui viennent de n'importe où et qui n'ont pas d'intérêt fonctionnel viennent boucher le trou et puis qu'après, il n'y a plus possibilité de reconnecter. Voilà. Donc je pense que votre question a un véritable intérêt, mais évidemment, on tombe là dans des limites de l'observation et de la compréhension du système.
Une toute dernière question par monsieur ici, après on arrête parce qu'on est très en retard.
Observez les modifications anatomiques ou fonctionnelles chez le dyslexique, c'est-à-dire l'enfant qui n'arrive pas à apprendre à lire.
Il y a plusieurs formes de dyslexie. Hein. Il y a des dyslexies profondes, il y a des dyslexies moins profondes. Un auteur bostonien, qui s'appelle Galaburda, a observé il a pu obtenir le cerveau de plusieurs dyslexiques qui étaient morts dans des accidents de voiture ou des choses comme ça, et qui étaient connus pour être des dyslexiques profonds, donc qui inversaient les lettres, qui pouvaient, etc. Il a constaté que dans certains cas, il y avait un développement anormal de certaines régions du cortex, que probablement au cours du développement, un certain nombre de connexions ne s'étaient pas réalisées correctement. Il y avait en particulier des petits îlots de cellules qui n'étaient pas placés au bon endroit, qui n'étaient pas dans la bonne couche, en quelque sorte. Donc, si vous voulez, ça illustre un petit peu cet adage que je vous disais tout à l'heure, qui se ressemble, s'assemble. Là, c'est des neurones qui auraient dû être à un endroit et qui ne s'étaient pas placés au bon endroit. Donc, est-ce que ce problème est un problème plus général qui existerait dans d'autres troubles développementaux, type autisme infantile, etc. Ça, c'est des choses qui deviennent très intéressantes maintenant, qu'on peut, justement, grâce à l'IRM fonctionnel, regarder le cerveau dans le détail chez des sujets vivants. Voilà, je vous remercie de votre...
Monsieur, merci.